Bienvenue à la série Le Monde Change, une série d'interviews, de reportages, de rencontres et de découvertes avec des gens d'ici, des proches qui témoignent des réalités d'ici et maintenant. Cette série est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Des 50 dernières années, nous avons assisté à une évolution dans quantité de domaines, tellement que de multiples structures ne tiennent plus la route. Nous devons entreprendre des transformations majeures afin de prendre un véritable virage face à ces nouvelles réalités. Mais sur quelles valeurs reposeront ces nouveaux modèles organisationnels? Le secteur de la santé est un de ceux qui devront subir des changements majeurs. Un vieil adage nous dit qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Irène Turbide, infirmière, nous dresse un portrait de changement vécu et on en profite pour faire un survol des défis d'une femme dans un monde d'hommes.
Je suis née en 1938. C'est pas hier. J'étais la deuxième de 16 enfants. Quand je suis partie faire mon cours d'infirmière, maman en a eu deux autres. J'étais au Nouveau-Brunswick, à Moncton. Arrivé, c'est que moi, j'ai fait un choix. J'avais fait 2-3 demandes, puis à un moment donné, j'ai eu ma demande, j'ai accepté. À Moncton, alors, c'était quand même plus facile de prendre l'avion ici. Partait d'ici, Charlottetown, Moncton, ça allait plus vite. Beaucoup d'infirmières ou de filles des îles allaient du côté de Camelden, mais c'était plus difficile pour voyager. Quand je suis partie, la piste d'atterrissage était sur la dune à Fatima. C'était toujours un avion, je vous dis, d'une quarantaine de passagers qui venaient aux îles. De ça, c'était Maritime Central Airways. La première, deuxième année, je suis venue aux îles pour mes vacances de fête, mais la troisième, je suis allée passer ma vacances avec une de mes amies dans le Nouveau-Brunswick. 1956-1959. C'était pas comme aujourd'hui, je te le garantis. Ça ressemblait à quoi? C'est qu'on était d'abord hébergés à l'Hôtel-Dieu, où je faisais mon cours. Il y avait une résidence pour les infirmières. Et à ce moment-là, on avait les 3 premiers mois, c'était une période pour savoir si oui ou non on allait être accepté. Et après ça, on faisait du travail partagé, études et travail. On faisait notre expérience comme infirmière en même temps qu'on étudiait. Moi, j'ai trouvé ça bien plaisant, qu'est-ce que tu veux que je te dise. J'étais habituée de travailler et puis ça me prenait quelque chose pour m'occuper. Alors, j'ai bien aimé cette période-là. Durant mon cours d'infirmière, dans mon stage à la salle d'opération, il y avait un médecin qui voulait que j'aille du côté américain pour prendre mon cours d'anesthésiste. Mais, étant donné que j'étais la deuxième d'une famille de 16, la priorité pour moi, c'était pas de vraiment de m'instruire, continuer à étudier là-dedans, c'était de venir pour aider ici aux îles. Puis, après ma graduation, je suis venue passer une vacance de la période des fêtes, et à ce moment-là, je suis allée faire un petit tour à l'hôpital, comme de regarder que ça m'intéressait. Fait que les religieuses qui étaient des directrices de l'hôpital à ce moment-là, ils ont dit « Irène, mais ça n'a pas d'allure que tu restes à Moncton puis qu'il n'y ait pas d'infirmière ici. On a une infirmière ou deux, ça prend quelqu'un ici. » Fait que je m'en suis retournée, puis j'ai pensé à mon affaire, puis je suis revenue aux îles. Et j'y suis restée. J'ai commencé à l'hôpital aux îles en 60 comme responsable, parce que dans ce temps-là, on n'était pas responsable des soins situés, on était responsable de l'hôpital. Première chose, elle m'a donné la clé des narcotiques, elle a dit « Irène, je te donne ça, mais tu sais qu'est-ce que tu as à faire et tu sais qu'est-ce qu'il ne faut pas que tu fasses. » Fait qu'à ce moment-là, elle m'a fait confiance, fait que j'ai fait confiance moi aussi. Au bout d'un an, je suis allée travailler pour le docteur Marc Arsenault au bureau privé. Par après, je suis revenue travailler à la salle d'opération. Et après ça, ben là, je me suis mariée. À ce moment-là, on était obligé de démissionner parce que les femmes mariées n'avaient pas le droit de retourner sur le travail. Quand on était, ça allait quand même donner une journée, 2 jours, 3 jours, tu sais, quand ça avait besoin. Puis après ça, à un moment donné, il y a eu un poste qui s'est ouvert. C'était l'unité sanitaire qu'on appelait. Quand j'ai dit je vais travailler, il a dit « Irène, travaille si tu veux. » Ben, il a dit « Fie-toi pas sur moi. » J'ai dit, moi, j'ai mon travail, puis toi, tu vois le tien. J'ai dit, parfait. Alors, à ce moment-là, je suis parti en grande, puis go. C'était des services qu'ils donnaient à la population. Il n'y avait pas de salle d'urgence à l'hôpital. L'infirmière était quasiment résidente dans une municipalité, puis c'est elle qui faisait le travail, par exemple, des visites à domicile, à vacciner les enfants, tout un tas de services qui étaient donnés à ce moment-là. Et puis, je suis rentrée à l'unité sanitaire en 68. Là, j'ai commencé avec la clientèle santé maternelle. Les visites chez les femmes, madame qui est enceinte, après ça, on faisait un suivi en postnatal, le bébé, la maman pour une période, et ainsi de suite. Et dans la programmation qu'on avait, on avait quand même un service qu'on donnait à l'école. Les avant-midi, on faisait du dépistage visuel, auditif, tout ce côté qu'il pouvait avoir. Là, pour moi, l'époux, c'était comme secondaire. C'était voir, par exemple, si l'enfant était capable de voir comme il faut, d'entendre comme il faut, physiquement, qu'il n'y avait pas de problème, parce que des fois, les parents disaient, Irène, mais regarde, celui-ci, il a un petit problème du côté de la colonne, tu devrais regarder, ou bien des fois, il y avait du côté hernie inguinale. C'est toutes sortes de choses comme ça. Je ne peux pas t'en énumérer, j'en aurais pour l'après-midi. Donc, il y avait un contact qui se faisait avec l'infirmière et les parents, qui nous donnait comme l'autorisation de faire ces examens à l'école. Et pour une période, on avait même un médecin qui est venu à l'école avec nous autres. Quand on faisait du dépistage, puis qu'il y avait un problème, mais là, on communiquait avec le médecin de famille. Pas nécessairement le médecin de famille, parce qu'il y en avait un pour toute la population. Donc, on communiquait avec le médecin, puis on lui disait, « Regarde, moi, je ne peux pas mettre des petites lettres après mon nom comme le médecin, mais j'ai trouvé telle chose, pourrais-tu vérifier? » Puis après ça, s'il y a des références à faire, c'est toi qui les fais, pas moi. Ça marchait quand même très bien. Ça, mais j'ai commencé en 68 et puis j'ai fini en 97. Dans le même domaine, si tu veux, avec des changements. Arrivé, par exemple, à un moment donné, les services du côté scolaire, mais ça a diminué. Le travail est accentué. C'est l'histoire des préventions des maladies, le développement de l'enfant. Parce que quand on recevait un enfant pour lui donner son vaccin, il fallait le peser, le mesurer et voir si son développement était normal. Et puis à ce moment-là, on faisait toujours des références quand il y avait un problème. On avait quand même une très bonne collaboration avec les médecins du temps. Et on a même eu une période où il y avait un médecin qui travaillait avec nous au CLSC. Puis là, ça a changé. Au début, c'était l'unité sanitaire. Après ça, c'était le CLSC. Puis aujourd'hui, c'est même pas ce que c'est rendu.
Vous n'êtes pas la seule. Au Québec, on est fort sur les acronymes CISSS, CHSLD, CGMS, CLSC et combien d'autres, en plus de l'arrivée des cliniques privées, sans compter l'espace réservé à une multitude de bureaux. Depuis les années 70, est-ce qu'on ne souffre pas de structurite? Parce qu'au final, l'intérêt premier, c'est le soin apporté aux patients.
Moi, ici, aux îles, je pense que c'est sûr que c'est comme partout ailleurs. Avec tous les changements qu'il y a eu, le syndicat, tu sais, je ne suis pas contre ces choses-là, remarque bien. Mais je me dis que c'est tous des facteurs qu'en fait, que finalement, ça nous tout désorganise. Et puis, à un moment donné aussi, nous autres, on était habitués à suivre certains règlements aussi. Quand j'ai commencé en 59, ce n'est pas la même chose que c'est en 2020. Il y avait certainement un respect qu'on avait envers les gens avec qui on travaillait et pour qui, nos supérieurs. À ce moment-là, je dis, c'était peut-être bien plus facile de s'ajuster aux besoins qu'il y avait. Parce que c'est sûr que c'était pas le même soin non plus. Nous autres, on avait un service. On n'était jamais en service en temps partiel. On rentrait et c'était temps plein tout le temps. Tous ces changements-là, aujourd'hui, c'est sûr que ça influence. C'est malheureux. Les malades sont là quand même. Et puis, je pense que les cas ont augmenté. Peut-être qu'à ce moment-là aussi, les gens se prenaient plus en main et puis peut-être s'organisaient plus. Ils ne couraient pas à l'hôpital pour un mal de nerf ou ils ne couraient pas à l'hôpital parce qu'il avait la grippe ou des choses comme ça, tu sais. Ils se soignaient à la maison. Je pense qu'ils passaient au travers quand même de leur chose. Ils se soignaient, puis il y avait des périodes où il y avait de la grippe, mais quand c'était fini, tu sais. Entre gens aussi, on s'entraidait beaucoup aussi, tu sais. Si la voisine avait besoin, ben, tu allais, tu sais, et ainsi de suite. Il y avait des périodes de maladies contagieuses qu'on appelait la rougeole, la rubéole, et ainsi de suite. Là. On allait à la maison voir, puis là, on savait qu'à ce moment-là que les autres allaient attraper ça, puis on disait de faire attention quand même, s'il y avait des complications, d'appeler, puis qu'on allait s'organiser pour qu'il y ait des services. Peut-être qu'il y a manqué un peu d'hygiène aussi dans ça-là, ça j'en conviens. Mais je pense qu'on était habitués avec nos microbes, on s'immunisait. Alors, on n'avait pas le matériel à large, comme je pourrais dire, comme là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, toutes les choses, c'est disposable. Tu prends une paire de gants, tu jettes ça, tu sais. Mais dans ce temps-là, on prenait une paire de gants si on avait des pansements, des choses à faire. C'est sûr qu'on fallait se désinfecter, mais c'était pas comme aujourd'hui. Il fallait toujours faire attention à se laver les mains entre chaque patient qui était bien exigeant de ce côté-là. Mais je peux pas dire, par exemple, qu'aujourd'hui, ils traînent le bouteille de désinfectant à la poche. Je suis pas sûr qu'ils s'en servent tout le temps quand même, mais en tout cas. C'est différent de ce que c'était. On avait un petit tampon alcoolisé qu'on servait pour se désinfecter. On n'a pas pogné plus de microbes, pareil. Quand tu veux que je te dise.
On m'a dit que des personnes vous rejoignaient pour ainsi dire valider un diagnostic de médecin ou du moins un second avis. Vous inspiriez la confiance.
Je suis obligée de te dire que c'est vrai. J'étais quasiment mal à l'aise aussi des fois de le faire, puis des fois même d'appeler le médecin, puis il dit « Ben là, telle chose, penses-tu que tu devrais t'aider à le garder une deuxième fois? » Mais je peux pas dire quand même que j'ai eu de la misère avec les médecins. Ils étaient très collaborateurs quand ça arrivait des choses comme ça. Un enfant, entre autres, que je m'en souviens, qui l'avait envoyé à Québec pour que ça ait été diagnostiqué. Moi, je disais que c'était une allergie aux antibiotiques. Puis finalement, oh, il avait paniqué, il l'avait envoyé à Québec. Puis à chaque fois que je rencontre cette madame-là, elle dit « Irène, t'en souviens-tu la réaction de la pénicilline? » Dans ce temps-là, c'est sûr qu'il y avait des choses qu'on faisait et puis qu'ils ne font pas ça aujourd'hui. D'abord, c'est pas le même régime. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup plus de médecins. Dans ce temps-là, il y avait 2, 3, 4 médecins et puis on avait accès à eux autres très facilement. Appeler le médecin puis des gardes, j'ai un petit bébé ici, là. On dirait que ça ressemble à une hernie inguinale qui se fait ou à une hernie ombilicale, même. Irène, envoie-moi là, là, puis je vais faire un examen. Ils nous faisaient quand même confiance de ce que c'est qu'on leur donnait comme observation qu'on avait fait. Des observations qu'on faisait comme ça. On n'avait pas de radiographie, d'écho, des choses comme ça. Pas du tout. C'était quasiment de la médecine de brousse.
Irène Turbide, le corps a une magnifique capacité de régénération, mais il est aussi fragile.
Il est fragile, mais il se régénère, toi, tu lui donnes la chance. C'est sûr que si tu vas dans des excès de toutes sortes de choses, tu ne l'aides pas. Que ce soit dans le boire, dans le manger ou dans n'importe quoi. C'est apprendre des habitudes de vie quand même assez régulières pour être capable de donner une chance à ton corps. Si tu ne le soignes pas, comme je pourrais dire, autant par exemple, si tu abuses, tu passes les nuits et puis tu ne dors pas, tu fêtes tout le temps, tu lui donnes pas de chance. C'est toujours dans des excès. À ce moment-là, lui, il va absorber, mais à un moment-là, ça va éclater à quelque part. Il faut que tu fasses attention à ton corps.
On fait aussi de moins en moins de sensibilisation ou du moins de la prévention. Mais revenons à votre carrière. Est-ce qu'il y a des cas qui vous ont marqué?
Oui, il y a un gros cas à un moment donné que je m'en souviens. Je travaillais à la salle d'opération à ce moment-là. La madame a accouché puis elle a fait une rétroversion utérine. On laisse soi-même. Le docteur, il dit « Irène, il faut l'endormir, puis il faut l'hystérectomiser. » La madame, elle a dit « Irène, quand mon mari va être arrivé de la pêche, là, tu lui diras telle chose. » Il faut peut-être te dire que je l'ai enregistré, hein, mais ça avait quand même bien été. Parce que le docteur avait peur de la décès, parce que c'était vraiment une urgence, puis elle saignait beaucoup, beaucoup. Finalement, ça a quand même bien été. Quand elle a été bien réveillée, puis que son mari était là, « Je peux-tu y dire qu'est-ce que tu m'as dit? » Il était content de savoir qu'elle allait peut-être mourir, mais quand même, elle a quand même pensé à lui, tu sais, puis elle avait laissé un message. Et ça, j'avais trouvé ça terrible. Au moins, un petit bébé, à un moment donné, qui était vraiment une insuffisance, que finalement, il a dû l'envoyer d'urgence à Québec, puis le lendemain, il est décédé. Oh, c'était pas facile, tu sais. Appeler à Québec pour savoir des nouvelles, pour dire à la maman, finalement, le bébé, il est décédé. C'est des choses comme ça, c'est difficile, c'est difficile. C'est arrivé, et puis il y en a d'autres aussi, mais je ne peux pas la peine de t'éténuer et toutes ces choses-là. Je n'ai jamais levé un matin, puis dit « aujourd'hui, je ne vais pas travailler ». Même des fois, de partir l'hiver, puis arriver au bureau, bien, Irène, je pense qu'on va devoir se fermer aujourd'hui, parce qu'il y avait des tempêtes de neige. J'étais peut-être trop hardi pour... Non, ça là, en tout cas. J'étais peut-être plus effronté qu'hardi. Ça m'est arrivé des fois comme ça. J'étais décidée, il fallait que je travaille, c'était ma période de travail, donc je partais et je travaillais. Quand je m'en allais en vacances, je savais que je revenais, mes cellules étaient faites pour le travail que j'avais à faire. Il fallait que je m'organise comme ça, parce que ça prend une discipline absolument. Tu sais, quand t'es à la maison, t'as des enfants, t'as un mari qui travaille, tout conjuguer ça, comme je pourrais dire, c'est pas évident. Mais, quand j'étais chez nous avec une pareille gang de petits, là, fallait s'organiser avec ça, hein. On a appris de bonheur à s'organiser et à prendre nos responsabilités.
On fait une courte pause et par la suite, on fait un survol des défis d'une femme dans un monde d'hommes.
La vie est un voyage, le monde
large de tes jours, au large de tes monts, j'irai pêcher l'amour sans filet ni bateau. La vie est un voyage, le monde est un bateau, l'amour est l'équipage, le cœur est un hublot. Au large d'un chagrin, au large de ton nom, j'irai noyer le mien au pays des poissons. La vie est un voyage, le monde est un bateau, l'amour est l'équipage. Au large de ta vie, j'y ai mouillé la mienne, dans le vol et les cris des goélands qui viennent. La vie est un voyage, le monde est un bateau, l'amour est l'équipage, le cœur est un hublot. Au large des saisons, bien qu'elle perde pied, j'écris cette chanson que je jette à tes pieds.
On est de retour à la série Le Monde Change avec Irène Turbide. Mis à part votre carrière d'infirmière, vous avez eu une vie bien remplie avec l'entreprise familiale, des fumoirs transférés de père en fils avec votre mari, Benoît Arsenault, qui était aussi maire à l'époque de la municipalité d'Avromaison. Les fumoirs d'antan qu'on connaît bien aujourd'hui a été repris par la suite par vos trois garçons. Vous avez évolué dans un monde d'hommes.
Oui. Toujours dans un monde d'hommes. Puis j'ai toujours préféré travailler dans un monde d'hommes que dans un monde de femmes. Et je veux dire, en général, je trouve que c'est plus facile. Parce que dans les femmes, on dirait qu'il y a plus de jalousie, d'une compétition qui se fait entre les autres. Je me sens que c'est plus difficile. J'ai travaillé aussi avec des hommes, tu sais, du côté de l'hôpital. Ça allait très bien. Chacun avait sa place, chacun s'inspectait. Ça allait bien.
L'entreprise des fumoirs, à une époque, on a dû clore les activités parce que le hareng était inexistant. Mais par la suite, vos fils ont décidé de prendre la relève.
Pour quelques années que ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait manqué de hareng. Puis en 1996, les jeunes, Benoît et Daniel et Louis, de remonter les fumoirs parce que là, il y avait semblant du hareng qui recommençait à venir aux îles. Et puis, c'est ça, ils ont recommencé. Puis moi, je dis des fois, au lieu d'aller se promener en Floride, mais on a remis les boucaneries en marche.
En plus d'être bien costaud, vos hommes avaient un caractère, j'imagine, bien trempé. Comment preniez-vous votre place?
Je me suis jamais posé la question. Ma place, elle était à l'eau. Je me suis jamais arrêté à ça, parce que j'étais avec eux autres, mais pour moi, c'était naturel. Quand j'ai fini de travailler comme infirmière, au début de ma retraite, je suis allée travailler à la côte avec eux autres. Et puis, dans le domaine municipal, mais souvent quand Benoît avait des rencontres que je pouvais assister, ou ça donnait qu'on allait à un congrès ou quelque chose comme ça, j'aimais ça de recevoir, de les entendre, de placoter avec eux autres et tout ça. À un moment donné, ils se réunissaient. Non seulement ceux-là des îles, mais d'autres qui connaissaient. Je me suis jamais posé de questions là-dessus. Puis quand il y avait une chose à faire publique, il fallait que je le fasse. Puis je le faisais, point si bien. C'est à l'intérieur aussi de moi comme ça. Chez nous, c'était 10 garçons et 6 filles. Ça fait qu'on avait plus d'hommes qu'on avait de femmes. Alors, j'étais déjà habitué à tromper dans le domaine masculin.
Vous ne ressentiez pas le besoin d'être appuyé pour avancer?
Moi, j'avais une période que j'avais un travail à faire, ça se faisait, puis après ça, c'était final. Le reste, là, je m'en occupais pas. Quand ils étaient à la côte, eux autres faisaient leur travail. Moi, je m'amenais à la maison, puis je faisais le travail que j'avais à faire. Je faisais ma part, puis après ça, là, les autres s'arrangeaient. Chacun avait une chose à faire, ça fait que je les laissais aller.
Et aujourd'hui, vous travaillez toujours ensemble?
Une fois de temps en temps, mais je vais m'informer de ce qui se passe. Ils me donnaient la parole. La compagnie entre Benoît, Daniel et Louis, les trois, mais moi, j'ai hérité des parts à Benoît. Ça fait que j'ai quasiment mon mot à dire aussi là-dedans. Disons que je ne vais pas me mettre le nez directement à la cour, mais une fois de temps en temps, j'ai un rapport. Ou bien Benoît organise une réunion pour nous donner un rapport de ce que c'est qui se passe.
On peut dire que vous n'avez pas beaucoup chômé.
Non, j'ai pas chômé. Jamais, jamais. J'ai toujours eu quelque chose à faire. Je me suis toujours occupée avec quelque chose. Au-dessus, là, dans le temps, là, comme je te disais tantôt, là, ma cafétéria est ouverte là, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et je donne à dîner aux jeunes qui travaillent au fumoir. C'est sûr que s'il y a quelque chose de spécial que je suis invitée, je ne suis pas obligée. Mais j'aime ça parce que finalement, ils viennent ici, puis on discute de choses, puis ils m'amènent des nouvelles, on fait des échanges. Ça fait du bien. Autrement que ça, si je reste ici et puis que je ne parle pas à personne, qu'est-ce qui va m'arriver? Hein? Non, je suis pas intéressée à cette chose-là. J'aime mieux placoter puis partager avec les autres.
Est-ce que vous suivez l'actualité?
Assez, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses positives dans le temps. C'est de ça, bah, beaucoup. Parce que j'aime mieux pas être à la tête pour diriger ces choses-là.
Est-ce que vous vous intéressez au sort des enfants, des jeunes, parce que vous les avez côtoyés de par votre travail dans les écoles? Comme par exemple, on dit qu'un enfant sur 5 éprouve des difficultés à l'école, au primaire et au secondaire. C'est 1 enfant sur 3 au Québec. Notre jeunesse, nos enfants ont des défis importants à relever en ce moment.
Je pense qu'il y a les jeunes, mais il y a les parents aussi. Les parents aussi, je dis, ont un rôle à jouer là-dedans. Je pense que la tempérance, là, aura bien meilleur goût dans tout. Que ce soit, par exemple, dans l'excès des sports, dans l'excès des périodes, par exemple, qui regardent la télévision, ou le téléphone, la tablette. Il y a des excès partout qui se font. Puis je pense que s'ils étaient habitués à être un peu plus modéré, il n'y a pas, comme on dit, entre parenthèses, speedé. Les parents ont peut-être le gros rôle à jouer là-dedans. Parce que si les enfants sont poussés par les parents, par exemple, pour, disons, performer dans tous les domaines, mais à ce moment-là, l'enfant, là, Il est comme parti au départ en grande, puis à ce moment-là, il peut se ramasser n'importe où. C'est sûr que c'est malheureux. Ça me fait de la peine quand je vois, par exemple, même dans les classes, il y a tellement d'enfants qui ont des problèmes. C'est incroyable. T'entends, mon enfant a ci, mon enfant a ça, il est référé pour tel et tel et tel problème. Ça me fait de la peine quand j'entends ça. Parce que je me dis, quand tu regardes ça, c'est sûr qu'il y a des services. Mais tu peux pas combler tous les besoins de ces gens-là. C'est impossible.
On assiste à une course effrénée au plaisir immédiat. C'est une quête qui n'a pas de bout, parce qu'on est sollicité abondamment et de façon très efficace.
C'est pas facile. D'abord, t'es influencé par tous les voisins et les autres enfants. L'enfant arrive, moi c'est ci, lui là ça, pourquoi? Je dis, il y a tellement de choses. C'est assez des fois pour de t'organiser un enfant. C'est fait quasiment tous les jours. T'as besoin de quelque chose, tu vas trouver le moyen de l'avoir. T'as pas besoin d'attendre pour dire, oh, tu sais, je veux donner ça à Noël. Non, non, d'abord, l'enfant attendra pas pour ça, parce qu'il va dire, j'en ai besoin de tuer. Et puis, les récoltes, là, mais il n'y a plus personne qui cultive. C'est très rare. T'en as quelques-uns encore ici aux îles, mais je veux dire, la plupart des gens, tu vas dans le magasin, t'arrives là, t'as du prêt à manger. Ça, c'est encore une autre chose. Ouais, ben, on prenait le temps de préparer nos aliments. Mais là, c'est du prêt à manger partout. Si tu veux profiter de tout ce que dit qui part, faut que tu passes au magasin, tu achètes un lunch. T'as pas le temps de le préparer le matin, ni le midi, ni le soir. C'est sans fait certain. Ça atteint tous les services, toutes les sphères de vie. La semaine ou dimanche, c'est pareil. Qu'est-ce que ça va faire comme société? On verra dans le temps comme dans le temps. Quand on était jeunes, mais nous autres, il y avait quand même des périodes qu'on pouvait s'arrêter puis attendre que quelque chose arrive. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est une roue qui tourne continuellement. L'attente, il n'y en a plus. Tu choisis, puis dans le temps de le dire, mais t'as ton billet, puis t'en vas. Ah, le crédit, ça, on n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas, le crédit. C'est ça qui fait le malheur de bien du monde. Parce que si on apprenait à vivre avec les moyens qu'on a, ça serait peut-être bien plus facile. T'es tellement influencé par tout ce qui se passe autour de toi. Tu prends le chemin, puis tu suis ça.
Vous mentionniez les fêtes. On vient de passer par les festivités de Noël, du jour de l'an. Qu'est-ce que vous avez souhaité, vous?
J'ai souhaité beaucoup de paix, d'amour et de sérénité. Parce que l'amour, ça, on n'en a jamais trop. La paix, mais aujourd'hui, ça en prend. Puis la sérénité, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas changer, des choses qu'on est obligé d'accepter comme ça. Fait que faire apprendre à vivre dans toutes ces choses-là. Nous autres, comme de raison qu'on avait comme une dimension spirituelle, comme je pourrais dire, que pour nous autres, on était attachés à ça. J'y suis encore. Aujourd'hui, c'est une dimension qu'on a oubliée. Alors, à ce moment-là, il y a des choses qu'on oublie. Puis il y a des choses qui ne nous facilitent pas la tâche non plus. Et je pense que c'est une dimension aussi qu'il ne faut pas oublier. Que quand on cherche à savoir déterminer les besoins d'une personne, ça fait partie d'un besoin. En qui tu crois? Je dis, il y a toujours un être supérieur, en quelque part, à qui tu réfères.
Irène Turbide, en terminant, je vous laisse le mot de la fin. Quelques petites recommandations comme vous faisiez à l'époque, en quittant la petite famille, lorsque vous passiez de maison en maison?
Il ne faut pas essayer de tout avoir, de profiter de ce qu'on a, puis d'en profiter au moment présent. Parce que demain, il n'y a des expos pour personne. Alors, aujourd'hui, c'est ça que tu as à vivre, ben, vis-le le mieux possible. Quand même que tu dirais que tu es plus heureuse d'aller en Floride que je vais être à passer l'hiver aux îles de la Madeleine, je suis pas sûre. Si tu viens ici, donc ça me fait plaisir de te recevoir. Tu viens pas ici pour voir si mon ménage est fait. Tu viens ici, pour jaser. Ça, là, je trouve ça le fun. Il n'y a pas de compétition là-dedans. Pour moi, la compétition, j'ai jamais été pour ça. Que ce soit là-dedans ou dans d'autres choses, pas du tout. Je peux te dire que j'ai été habituée comme ça, d'accepter ce côté qui se présentait. Et on est obligé de partager. On faisait partie de l'équipe de travail dans tous les domaines. On avait des responsabilités. On était unis. Hein. C'était pas toujours rose, si tu veux, dans ce sens qu'on avait beaucoup d'ouvrages à faire. C'était pas toujours facile, mais on s'organisait pour avoir notre part quand même.
Merci à Irène Turbide. Merci à vous d'avoir été là. Ici Michel Landry qui vous donne rendez-vous pour une autre histoire prochainement.